Téhéran et Bakou sont capables de résoudre les problèmes existants dans leurs relations sans l'intervention d'un tiers, a réitéré le ministre iranien des Affaires étrangères. Des dizaines de terroristes d'Ayat Tahrir al-Sham ont été tués, bien d'autres blessés lors des raids aériens russes syriens contre les bases des terroristes dans la province d'Idlib. Et l'Égypte et l'Inde élèvent leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Bakou sont capables de résoudre les problèmes existants dans leurs relations sans l'intervention d'un tiers. Lors d'un appel téléphonique lundi matin, 26 juin, avec son homologue azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que les liens étroits qui existent entre la République islamique d'Iran et la République d'Azerbaïdjan leur permettent de régler leurs problèmes de manière bilatérale sans avoir besoin de la médiation d'autrui. M. Amir Abdollahian a également évoqué les développements régionaux et internationaux les plus importants, soulignant la nécessité de consultations continues étroites entre les deux voisins. Le ministre azéri des Affaires étrangères a pour sa part salué les efforts constructifs de M. Amir Abdollahian pour régler les tensions entre les deux pays. Bayramov a jugé positive sa conversation avec le ministre iranien des Affaires étrangères, exprimant l'espoir que leur relation bilatérale se développerait dans un proche avenir après la résolution d'un certain nombre de questions en suspens. Les deux ministres ont également discuté d'autres questions d'intérêt commun, notamment le corridor de transport nord-sud, ainsi que la coopération future au sein d'organisations régionales et internationales, telles que l'Organisation de coopération économique et le mouvement des pays non alignés. Lors d'une précédente conversation téléphonique en juin, les ministres des Affaires étrangères iraniens et azerbaïdjanais avaient souligné la nécessité pour les deux voisins de résoudre les malentendus existants dans le sens des intérêts mutuels. À l'époque, les deux hauts diplomates ont insisté sur la nécessité de poursuivre les consultations entre Téhéran et Bakou. Les relations entre Téhéran et Bakou se sont détériorées en janvier lorsque l'ambassade d'Azerbaïdjan dans la capitale iranienne Téhéran a été attaquée. Bakou a qualifié l'attaque de terroriste, bien qu'une enquête ait révélé que l'assaillant avait agi sous l'emprise de problèmes personnels et familiaux. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a également imputé l'incident au gouvernement iranien. Plus tard, Bakou a expulsé 4 diplomates iraniens, poussant Téhéran à réagir de la même manière. En même temps, l'Azerbaïdjan a renforcé ses liens avec Israël, accueillant fin mai le président du régime sioniste Isaac Herzog. Après sa rencontre avec Aliyev, Herzog a déclaré que les deux hommes avaient parlé en profondeur de la sécurité mondiale et régionale, prétendant que le régime était mis en danger et menacé par l'Iran. Plus tôt cette année, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a affirmé qu'il s'était mis d'accord avec Bayramov sur une position anti-iranienne. Téhéran a critiqué Bakou pour son partenariat avec le régime d'occupation en vue de l'établissement d'un front uni contre la République islamique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a réagi dimanche 25 juin au tweet interventionniste du ministère français des Affaires étrangères concernant les développements dans la région du Golfe Persique. Dans le tweet du ministère français des Affaires étrangères, le faux terme du Golfe a été utilisé pour désigner le Golfe Persique. Si cela signifie le Golfe Persique, son nom correct, historique et international doit être utilisé, a tweeté le porte-parole iranien en soulignant. Alors que la France se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de la région du Golfe Persique, nous lui demandons d'éviter des propos interventionnistes au lieu d'accuser l'Iran. À ce propos, il faut rappeler que le ministère français des Affaires étrangères a prétendu dimanche que face aux recompositions rapides dans la région du Golfe Persique et à la source d'instabilité que l'Iran continue de représenter, l'Union européenne devrait être toujours plus présente dans cette région. Les allégations du ministère français des Affaires étrangères tombent alors que la France ainsi que le Royaume-Uni font partie de la soi-disant coalition internationale aux côtés de la 5e flotte de la marine américaine déployée à Bahreïn, sous prétexte d'assurer la sécurité de la navigation des cargos de commerce dans le golfe Persique. L'Iran a récemment proposé la formation d'une coalition navale regroupant les pays riverains du golfe Persique pour assurer la sécurité de cette zone d'importance stratégique. Des dizaines de terroristes d'Ayat Tahrir al-Sham, HTS, ont été tués, bien d'autres blessés après que des avions de guerre syriens et russes ont effectué de nombreuses frappes aériennes sur des bases terroristes et des dépôts d'armes dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. L'agence de presse officielle syrienne Sana, citant un communiqué publié dimanche 25 juin par le ministère syrien de la Défense, a rapporté que les attaques intervenaient en représailles aux attaques de drones des terroristes au cours de la semaine dernière dans les provinces voisines de Hama et de Latakia, attaques qui ont tué plusieurs civils et causé d'importants dommages aux propriétés privées. La déclaration a souligné que les raids aériens conjoints syriens et russes ont détruit le quartier général, les caches d'armes ainsi que les sites de lancement de drones des terroristes du HTS et des groupes affiliés, en particulier ceux du parti du Turkestan en Syrie, groupe terroriste salafiste. Ces raids ont tué des dizaines de terroristes et blessé beaucoup d'autres. Le ministre syrien de la Défense a noté qu'un certain nombre de commandants terroristes de haut niveau, parmi lesquels Abdul Karim Abu Dawood al-Turkestani, Saifullah Abu Abd al-Haq al-Turkestani et Abdurrahman Sardoun, ont été éliminés en conséquence. En outre, les forces russes et syriennes ont mené des frappes à la périphérie de la ville de Jisr al-Sharour contre les quartiers généraux de divers groupes armés. Simultanément, un autre raid aérien visait la salle des opérations Al-Fatah al-Mobin, des factions terroristes takfiristes dans la ville d'Ariha, au sud d'Idlib. Une autre frappe aérienne russe a visé une base terroriste près de l'entrée ouest de la ville d'Idlib elle-même. En réponse à l'intensification des frappes aériennes, le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham a ordonné à tous ses membres d'évacuer leur quartier général afin d'éviter de nouvelles attaques des forces aériennes syriennes et russes. Selon des sources locales, les points de contrôle des terroristes de HTS à la périphérie de la ville d'Idlib sont désormais déserts, les terroristes s'étant retirés de la région par crainte de nouveaux raids. Plus de 30 raids aériens ont été enregistrés dans les environs d'Idlib, ciblant spécifiquement le quartier général et les dépôts d'armes de Hayat Tahrir al-Sham et des groupes affiliés. En outre, des raids intensifs des forces aériennes syriennes et russes ont été signalés sur des quartiers généraux et des sites terroristes dans et autour de la région montagneuse de Jabar al-Arbaïn, au nord de Jisr al-Sharour, ainsi qu'autour des collines de Kabani, dans la montagne nord de Latakia. Suite à la protestation ferme des habitants du Golan syrien occupé, le premier ministre du régime sioniste Benjamin Netanyahou a été contraint de retarder la mise en œuvre d'un projet du régime d'installer des éoliennes sur le territoire syrien. Le projet de construction d'un parc éolien dans le Golan syrien est l'un des plans coloniaux les plus dangereux du régime sioniste qui veut confisquer 6000 hectares de terre au Golan occupé syrien. La vive protestation des habitants du Golan syrien ces derniers jours a amené Netanyahou à annoncer son refus temporaire d'exécuter ce projet lors de sa conversation téléphonique avec le cheikh Moufer Tarif, chef spirituel de la communauté druze du Golan. Mercredi 21 juin, des dizaines d'agriculteurs syriens ont été blessés après que les forces militaires israéliennes ont attaqué les habitants des hauteurs du Golan occupé qui s'étaient rassemblés pour protester contre le projet du régime de Tel Aviv d'installer des éoliennes sur le territoire syrien occupé. Les soldats israéliens ont utilisé des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes contre les manifestants non armés afin de disperser la foule, mais les manifestants ont continué à protester. Le parquet allemand a reconnu dimanche avoir placé sur écoute des militants écologistes appartenant au groupe Letzte Generation, l'opposition du chancelier allemand. Les procureurs allemands ont admis avoir mis sur écoute les téléphones des membres du groupe militant pour le climat Letzte Generation, dernière génération, célèbre pour ses tactiques de protestation dramatique. Le rapport a été publié pour la première fois dans le journal allemand Süddeutsche Zeitung, samedi 24 juin. Le quotidien a révélé que les écoutes téléphoniques avaient commencé en octobre lorsque les procureurs ont commencé à surveiller les emails, les comptes de messagerie vocale et les données GPS appartenant aux membres du groupe. Le mois dernier, on a signalé que la police allemande avait lancé un raid national contre les membres du groupe alors que les militants continuaient de protester dans le but de faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures plus drastiques contre le changement climatique. La police bavaroise et le parquet de Munich ont annoncé à l'époque dans un communiqué conjoint que les perquisitions avaient été ordonnées dans le cadre d'une enquête préliminaire en raison de nombreuses plaintes pénales de la population contre un total de 7 personnes âgées de 22 à 38 ans, soupçonné de former ou soutenir une organisation criminelle. La Corée du Sud et les États-Unis poussent la péninsule coréenne au bord d'une guerre nucléaire. L'Institut d'études américaines du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a averti lundi, dans un rapport, que les États-Unis empiètent de manière plus persistante sur la souveraineté et la sécurité de la Corée du Nord cette année, ce que Pyongyang ne peut plus tolérer. Les actions belliqueuses des États-Unis ont poussé les tensions militaires sur la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est, déjà plongées dans une situation extrêmement instable au bord d'une guerre nucléaire, selon le rapport publié par l'agence officielle coréenne KCNA. Le rapport fustige Washington et Séoul pour leur confrontation militaire anticommuniste délirante et leurs menaces rhétoriques et affirme qu'une guerre sur la péninsule se développerait rapidement en une guerre mondiale et une guerre thermonucléaire sans précédent dans le monde, provoquant des conséquences les plus catastrophiques et irréversibles. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le premier ministre indien Narendra Modi, en visite en Égypte, ont signé dimanche 25 juin une déclaration conjointe pour élever leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique, a annoncé la présidence égyptienne. L'élévation du niveau des relations entre l'Égypte et l'Inde reflète leur patrimoine civilisationnel conjoint et leur volonté de promouvoir ces relations, a indiqué Ahmed Fahmy, porte-parole de la présidence égyptienne. Au cours de leur entretien, Messieurs Al-Sissi et Modi ont discuté des façons de promouvoir la coopération dans les domaines de la communication, des technologies de l'information, des industries pharmaceutiques, de l'enseignement supérieur, des énergies nouvelles et renouvelables, du tourisme et de la culture. Les deux parties ont également évoqué l'élargissement des échanges commerciaux et le développement des investissements indiens en Égypte, a ajouté M. Fahmy. La visite de deux jours de M. Modi était sa première en Égypte en tant que Premier ministre. Il a par ailleurs invité M. Al-Sissi à prendre part aux réunions du G20 qui devront avoir lieu en septembre à New Delhi. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants. Je vais vous présenter le commentaire politique. Le risque de récession s'accroît en France. En France, la contraction la plus sévère de l'économie en 2 ans s'est produite en juin, avec une baisse considérable de l'activité dans les secteurs des services et de la manufacture. Le risque de récession se profile de manière croissante pour la 2e plus grande économie de la zone euro. En effet, l'activité de l'économie française a enregistré au mois de juin 2023 sa baisse la plus significative au cours des 2 dernières années. Cette situation s'explique principalement par le recul du secteur des services. Le secteur manufacturier continue, lui aussi, d'afficher une tendance à la baisse. L'indice PMI Flash de l'entreprise américaine S&P Global, qui mesure l'activité du secteur privé, atteint 47,3 au mois de juin, alors qu'il était de 51,2 en mai. Ainsi, il est à son point le plus bas depuis février 2021. Dans son draphile, Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, souligne que le risque de voir une récession en France accroît. Ces craintes s'expliquent également par le fait que la confiance des entreprises dans leur capacité à croître leur propre activité est au plus bas depuis mai 2020. La situation économique n'est pas plus réjouissante du côté des voisins européens de la France. La croissance du secteur privé dans la zone euro a brutalement ralenti en juin, tombant à un niveau proche de zéro, plombé par les difficultés de l'industrie, toujours selon l'indice PMI Flash. Il s'est replié à 50,3 en juin, après 52,8 en mai, au plus bas depuis 5 mois, signalant un très fort ralentissement de la croissance économique de la région, a expliqué et Sanpi dans un communiqué. Concernant la production industrielle, son indice était de 48 en juin, contre 52,5 en mai. Une enquête menée auprès de 750 entreprises a révélé les raisons de cette activité industrielle en berne. L'inflation, le durcissement des conditions financières ainsi que la fermeture d'entreprises sont cités comme principales raisons de la baisse de l'activité industrielle en Europe. La hausse des taux d'intérêt voulue par la Banque centrale européenne explique en partie la chute importante de la demande dans la zone euro. Bien que cette décision réduise l'inflation au sein des États membres, elle a très probablement contribué à faire entrer la zone euro en récession en hiver 2022. Les difficultés économiques enregistrées par les différents États membres ont pour conséquence une dépréciation croissante de l'euro face au dollar. Le dollar maintient à des niveaux satisfaisants en profitant de sa situation de valeur refuge. Il est également à noter que le PIB européen a reculé de 0,1% entre janvier et mars 2023 et qu'il avait déjà connu une baisse similaire au trimestre précédent. À cet égard, l'économiste Cyrus de la Rubia a prédit que le risque d'une nouvelle baisse du PIB de la zone euro au deuxième trimestre s'est accentué en juin.